Chers amis, chers camarades, alors le coronavirus aura peut-être la peau de l'économie mondiale, mais il n'aura pas réussi à empêcher la tenue de notre fête annuelle de lutte ouvrière à Saint-Nazaire, où nous nous retrouvons tous ensemble avec grand plaisir pour discuter et passer un bon moment dans cette ambiance fraternelle qui est celle du rassemblement de ceux qui aspirent à changer cette société. Car la gestion de cette crise sanitaire nous montre une fois de plus à quel point ce système économique, le capitalisme, réagit de manière totalement irrationnelle. Il en va de même pour ce gouvernement qui n'inspire plus la moindre confiance dans les milieux populaires pour gérer une telle situation, et il y a de quoi. Un gouvernement qui est tellement soucieux des intérêts des gros de l'industrie et de la distribution qu'il interdit les gros rassemblements mais laisse ouverts les plus grosses entreprises comme le chantier naval ici où travaillent plus de 9000 personnes dont près de 2000 concentrées sur chaque navire. Dans les départements les plus touchés, il ferme les marchés et interdit les manifestations contre la réforme des retraites et le 49-3, mais les grandes surfaces et toutes les entreprises restent ouvertes. Quant au matériel nécessaire pour limiter la propagation du virus produit par des firmes privées, à qui personne n'impose ni stock, ni capacité de production suffisante pour faire face à une crise, matériel comme les masques ou les gels de désinfection, eh bien, tout ce matériel, il est déjà en rupture avant même d'avoir commencé à servir. Le plus grave reste néanmoins l'état des hôpitaux. Le gouvernement lance des communiqués rassurants pour dire que le pays est prêt et que les hôpitaux dédiés pourront accueillir les malades. Mais tous les personnels soignants savent que c'est faux. Et certains d'entre eux dénoncent ce mensonge. L'hôpital, et en particulier les urgences, était déjà au bord du gouffre avant cette crise sanitaire, déjà incapable d'accueillir et de soigner correctement les malades, incapable de résorber les files d'attente de plusieurs heures. Alors de là à assurer l'accueil et les soins d'une vague de malades victimes d'une épidémie, des lits seront rouverts, certes, mais il n'y aura pas de personnel pour s'occuper des malades. Pas très loin d'ici, à Vannes, qui fait partie des zones exposées au virus, le 15 et les urgences sont déjà totalement débordées, ne serait-ce que pour répondre au téléphone à tous ceux qui s'inquiètent ou s'interrogent sur leur état de santé ou celui de leurs proches. Non, l'hôpital n'est pas du tout prêt à faire face à une épidémie. Et s'il doit l'affronter, cela sera en laissant sur le côté d'autres malades, cela sera au prix de report de bien des interventions pourtant indispensables. Cela sera au prix du rallongement des délais déjà scandaleusement longs pour voir un médecin subir une opération ou bénéficier de soins. Oui, ceux qui ont raison, ceux qui ont le sens des responsabilités, de ce que devrait être le système médical dans un pays qui ne manque pas de moyens comme celui-ci, eh bien, c'est le personnel médical qui se bat depuis des mois pour que l'hôpital récupère les moyens matériels, humains et financiers pour fonctionner correctement. Et tous ceux qui, dans les classes populaires, ne voient dans ce gouvernement qu'une bande d'incapables et d'irresponsables, eh bien, ils ont raison. Car c'est ce gouvernement, à la suite de tous les autres et sur les injonctions des familles les plus riches de ce pays, qui déverse l'argent public dans les caisses du patronat. Les 22 milliards de cadeaux du CICE par an, la fin de l'impôt sur la fortune, et il y en a bien d'autres, autant d'argent qui manque, entre autres, dans les hôpitaux. Et c'est pourtant là qu'ils sont indispensables, ces moyens financiers. Mais non, ce gouvernement agit pour qu'il aille directement dans les caisses des grosses entreprises avant de terminer, sous forme de dividendes, dans les poches des plus gros actionnaires. Et ceux-là, ils en ont d'ailleurs tellement qu'ils en utilisent la majeure partie à spéculer en bourse. Bourse tellement folle et irrationnelle qu'elles en sont à faire craindre que le pire qui puisse arriver avec cette épidémie, c'est une nouvelle crise financière provoquée par un effondrement boursier, suivie par une crise économique plus ravageuse encore que celle de 2008. Alors oui, si l'on peut tirer déjà une première leçon de cet événement, c'est que la maladie la plus sérieuse dont souffre l'humanité, celle qui fait le plus de dégâts, c'est bien le capitalisme. Et c'est bien de cette maladie dont il est urgent de se prémunir. Le gouvernement a jugé le moment opportun pour accélérer la mise en œuvre de la réforme des retraites en utilisant 49.3. Un crime grave de lèse-démocratie parlementaire pour certains. Un détail technique pour le gouvernement qui sait que cet épisode de la guerre de classe qui oppose la grande bourgeoisie à la classe ouvrière s'est joué principalement avec les grèves et les manifestations qui se sont déroulées ces dernières semaines et qui ont succédé aux importantes manifestations du 5 décembre. Oui, cette réforme des retraites est un épisode de la guerre de classe que mène le grand patronat et il n'est pas des moindres. Il a d'ailleurs été perçu comme tel par la grande majorité du monde du travail et les employés de la RATP, les cheminots qui ont fait pour certains jusqu'à 2 mois de grève, ont démontré qu'il existe dans la classe ouvrière la conscience de la nécessité d'engager réellement un bras de fer contre le gouvernement et les plus riches qui se cachent derrière lui. Mais surtout, il a montré qu'il peut se trouver la détermination pour le mener. Et les cheminots, les cheminots, ils l'ont fait jusqu'aux limites de leur seule possibilité, entraînant la sympathie et le soutien de la majorité de la population du pays et de la grande majorité du monde du travail. Et pas qu'une sympathie passive, car les manifestations qui se sont multipliées pendant 2 mois, pour beaucoup, ont été de grands succès, et elles ont rassemblé des cortèges importants de tous les secteurs du monde du travail. La mobilisation a été importante, et elle continue, avec des rassemblements qui se sont organisés contre le 49.3, et des dates de manifestation qui sont d'ores et déjà programmées, comme la journée du 31 mars. Mais pour le moment, la mobilisation n'a pas été suffisante pour faire peur au grand patronat et pour faire plier le gouvernement. Car pour la bourgeoisie, pour la grande bourgeoisie, l'enjeu est de taille et elle ne veut pas céder. L'accroissement ou le maintien des profits de cette classe sociale ne se fait plus. Et depuis longtemps, sur de la croissance ou sur des hausses de production. Non, les revenus du capital sont assurés dorénavant, chaque année, par une exploitation accrue du monde du travail d'un côté et par le pillage des fonds publics de l'autre. Et la crise économique durant, l'heure n'est plus aux petites économies, aux réductions budgétaires à la marge. L'heure est aux coupes sombres dans les plus gros budgets de l'État, ou tout du moins ceux qui sont utiles à la population et aux classes populaires. Dans le viseur du grand patronat et du gouvernement, après la dernière réforme des indemnités de chômage qui va commencer à produire leurs premiers effets désastreux que dans les prochains mois, dans le viseur donc la sécurité sociale et les retraites. Car c'est sur de tels budgets que le gouvernement compte récupérer non pas les millions ni les centaines de millions, mais les milliards d'euros exigés par les capitalistes pour assurer leurs profits. Pour le monde du travail, c'est une attaque particulièrement violente, car elle organise pour les années à venir soit le maintien au travail bien au-delà des 62, voire des 65 ans, soit des fins de carrière au chômage, préparant une retraite de misère, soit même les deux ensemble. Avec la mise en place d'une telle réforme, seule une minorité de salariés payés correctement pourra assurer ses vieux jours avec des assurances privées. Pour l'immense majorité du monde du travail, la retraite à points, c'est des pensions diminuées d'un quart, d'un tiers, voire plus, comme l'ont calculé certains syndicats. Pour un grand nombre de travailleurs qui n'arriveront plus à effectuer une carrière complète, car à bout de force et condamnés au chômage, cela veut dire le minimum vieillesse à l'arrivée. Alors tous ceux qui continuent à manifester, à protester contre cette réforme, à considérer que cette bagarre n'est pas finie et que le gouvernement, sur ce sujet-là, comme sur les autres attaques qu'il projette déjà, n'en a pas fini avec la colère du monde du travail, tous ceux-là ont 1000 fois raison. Parce que la colère populaire qui s'exprime depuis plus d'un an avec le mouvement des Gilets jaunes, puis cette colère qui s'est exprimée dans les EHPAD, dans les hôpitaux, Ces grèves qui ont éclaté à la RATP puis chez les cheminots, ces manifestations massives où des centaines de milliers de travailleurs en débrayage sont venus se rassembler, eh bien cette colère n'est pas éteinte. Les braises de la contestation sont toujours bien vives et laissent espérer que ce gouvernement et derrière lui le grand patronat n'en a pas fini avec nous. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de nous présenter aux élections municipales partout où cela nous aura été possible. Lutte ouvrière a été en mesure de présenter 260 listes dans 240 villes. 240 villes où les électeurs des classes populaires auront la possibilité de voter clairement pour le camp des travailleurs. À Saint-Nazaire, notre présence à cette élection n'est pas une nouveauté. Nous étions déjà présents à toutes les autres précédentes élections de ces dernières décennies, où nos scores nous ont même permis, dans le passé, d'avoir un élu au conseil municipal. Mais cela n'a pas empêché les journalistes, aux ordres, de nous exclure des débats télévisés organisés pour ces élections municipales sous des prétextes les plus bidons. Mais comme cette situation est identique dans presque toutes les autres villes où nous nous présentons, les raisons de cette mise à l'écart ne font aucun doute. Ne sont tolérés dans ces débats que les candidats qui ne contestent pas l'ordre bourgeois. La situation de Saint-Nazaire n'est pas très originale et elle illustre parfaitement la manière dont fonctionne cette société et au profit de qui. Saint-Nazaire connaît, à en croire les commentateurs et tous les grands patrons, une période de prospérité. Carnets de commandes qui se chiffrent en milliards pour Airbus et les chantiers navals, des lignes de production et des cales saturées pour 10 ans, voire plus, et les autres industriels du secteur ne sont pas en reste, les sous-traitants, les fabricants de moteurs ou les gros de la logistique. Tous ces grands patrons se plaignent publiquement du manque de main-d'œuvre et vont même jusqu'à en faire des banderoles aux grilles des entreprises. Et les profits sont au rendez-vous. Du côté des travailleurs, aucune prospérité. On travaille, certes, ça c'est sûr. Et on s'abîme sur les chaînes de montage d'Airbus et ses sous-traitants, où l'on fabrique des tronçons d'avions plus vite, toujours de plus en plus vite. Au chantier aussi, ça travaille. Et pour beaucoup, les 35 heures ne sont qu'une vague référence assez lointaine. Et on s'échine aussi dans les ateliers, toujours plus vite, au rythme imposé par l'organisation Lean du travail qui fait la chasse au temps mort. Et c'est de nuit et de jour que l'on construit des navires, comme s'il était impératif d'imposer des horaires de 3-8 et de nuit à des centaines, des milliers de travailleurs, des horaires qui ruinent la santé pour fabriquer des tronçons de paquebots ou d'avions. On peut même y laisser sa vie, comme cela a été le cas pour un de nos collègues de travail, décédé en pleine nuit, à 3h du matin, victime d'un accident de travail sur une chaîne de l'atelier des panneaux plans au chantier naval, pendant qu'il était en train d'assembler une tôle sur un tronçon de navire. Oui, ici, il y a du travail, mais c'est d'abord et surtout de l'exploitation. Malgré la prospérité affichée des industriels, les salaires des ouvriers qualifiés sont désormais rendus au ras du SMIC. Dans toutes les usines, le patronat a utilisé en cascade le recours à la sous-traitance, aux contrats précaires. Pour trouver des salariés contraints d'accepter des salaires les plus bas, le patronat n'hésite pas à faire appel à des ouvriers professionnels ou des techniciens de toute la France, car il y a bien des régions où la situation de l'emploi est pire encore qu'ici. Le patronat a aussi organisé et développé le recours au travail dit détaché, qui consiste à employer des salariés venant des pays du Sud, de l'Europe ou de l'Est, où les salaires sont plus faibles encore qu'ici. Le résultat en est que les salaires sont au plus bas, et que la plupart des travailleurs n'ont d'autre choix que de devoir compter sur les primes pour pouvoir boucler les fins de mois. Primes de 3-8, primes de présentéisme, amputées au moindre arrêt maladie, au moindre accident de travail, et même au moindre débrayage, ce qui est la dernière arme anti-grève à la mode dans le patronat. Et malgré cette prospérité dont se gargarisent les notables locaux, eh bien la misère se développe en ville, comme en témoigne une quinzaine d'associations qui ont envoyé une adresse à tous les candidats aux élections municipales de Saint-Nazaire au sujet de l'accroissement qu'elles constatent des situations de dénuement. Et parmi ceux qui sont contraints d'avoir recours à ces associations d'aide aux démunis, il y a de plus en plus souvent, des gens qui travaillent sans pouvoir en vivre. Non, dans cette société, la prospérité, la création de richesses n'est pas partagée. Non, dans cette société, nous ne sommes pas tous dans le même bateau à ramer dans le même sens. Et même lorsqu'il y a de l'activité, de la production, des profits, les travailleurs n'en bénéficient pas. Car la réalité de ce système, c'est que les capitalistes se nourrissent de notre exploitation. Ils s'enrichissent de nos bas salaires et de la dégradation de nos conditions de travail. Et tous les politiciens qui défendent cette idée qu'il faut aider les patrons pour créer des emplois sont des menteurs professionnels qui ne sont que des complices du vol par cette minorité de parasites du travail de toute cette société. Alors, ces politiciens, il faut les sanctionner ainsi que tous leurs soutiens locaux en votant pour les listes lutte ouvrière. Car tous ces politiciens qui se présentent à la mairie de Saint-Nazaire, comme dans toutes les grandes villes et villes moyennes du pays, sont issus, même s'ils font tout pour le dissimuler, des partis de gouvernement. Ils sont du PS ou de La République En Marche, ils sont verts ou du Modem, ils sont du Parti Les Républicains. Seul le candidat du RN n'a pas encore vu son parti gouverner les affaires de la bourgeoisie. Mais à le voir et à l'entendre, on devine déjà que tous les notables de la ville n'y trouvent rien à redire. Les points pas si singuliers de sa campagne sont le doublement des effectifs de la police municipale et l'indemnisation des commerçants victimes des manifestants. Alors ils sont gonflés, tous, de prétendre avoir des solutions pour le logement ou le transport, gonflés d'affirmer avoir des solutions pour l'emploi et de se dire compétents pour endiguer la délinquance. Car tous, ou presque, ont vu leur parti, quand il était au gouvernement, sabrer dans les budgets du logement social, limiter au minimum les investissements dans les transports collectifs, en particulier pour le train, et préparer sa privatisation. C'est ces partis qui ont été complices du grand patronat lorsqu'il supprimait des emplois, en lui facilitant la tâche, en dépeçant, bout après bout, ce qu'il pouvait y avoir de protection pour les travailleurs dans le Code du travail. Alors il reste aux candidats l'écologie, dont les solutions aux problèmes seraient solubles dans la politique municipale. Pistes cyclables, plantation massive d'arbres, qui peut être contre? Mais pendant ce temps-là, qui contraint, même sans aller très loin, car il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir à l'action de gros pollueurs, qui contraint vraiment ceux qui sont responsables des désastres de l'écologie? Qui contraint les industriels qui nous entourent à prendre les mesures qu'impose le respect de notre santé et de notre environnement? Un seul exemple. Des mesures ont été prises en Loire et dans l'atmosphère, et depuis 2011, la préfecture, les pouvoirs publics, les mairies savent que Yara, entreprise locale de production d'engrais, pollue bien au-delà de la législation. L'entreprise est avertie, mais personne ne la contraint. Elle ne prend donc aucune mesure et continue par contre à distribuer avec une grande régularité des dividendes à ses actionnaires. Hier encore, la presse révélait que cette entreprise ne s'était même pas donné le mal de présenter le bon de commande d'une station d'épuration rendue indispensable à cause de la pollution à l'azote et au phosphore qu'elle continue de répandre dans la Loire et dans l'air. 9 ans après les premières mises en demeure des pouvoirs publics, l'article de Ouest France titrait hier « Menace de sanctions pour l'usine de Yara ». Apparemment, la direction de Yara avait bien compris qu'elle avait des délais. Qui cherche à savoir qui sont les responsables du taux anormalement élevé de décès par cancer dans la ville, un taux supérieur à 28% à celui de la moyenne nationale? Car tandis que la députée de la ville, La République En Marche, pointe du doigt de supposées habitudes locales en termes de consommation d'alcool et de tabac, l'opinion ouvrière de la ville en a une vision tout autre et une vision basée sur l'expérience du mépris quotidien des industriels, sur nos conditions de travail, sur ce à quoi nous sommes exposés chaque jour au travail, en imaginant ce qui peut en résulter sur notre santé. Car après le scandale de l'amiante qui continue à faire des victimes ici, une bonne partie des travailleurs de la ville sont exposés aux fumées de soudure, aux émanations de produits chimiques, à la peinture. À cela s'additionnent les fumées des diesels des navires dont on connaît maintenant les effets sur la santé. Oui, là aussi, La clé de la solution se trouve dans le rapport de force qu'il va falloir imposer au grand patronat pour être en mesure de les contraindre réellement, de les empêcher de ne se soucier que de leurs profits, y compris sur le dos de notre santé. Car c'est bien là qu'est le problème. Et c'est celui-là qu'il faut résoudre. Comment contraindre les capitalistes, ceux qui ont le capital, ceux qui dirigent vraiment? Qui peut le faire? Nous avons manifesté les semaines passées avec des militants qui sont aujourd'hui sur des listes de gauche et qui prétendent avoir des solutions pour le pouvoir d'achat des classes populaires et pour améliorer leurs conditions d'existence. Eh bien, tous ceux qui sont sincères et qui croient faire œuvre utile en militant dans ce sens, nous leur disons non seulement qu'ils font fausse route, mais qu'ils continuent à semer des illusions dans les milieux populaires. La liste des écologistes promet par exemple de s'attaquer à la pauvreté sur la ville en prenant sur son budget, le budget de la ville, pour allouer un complément d'allocation à tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté pour l'atteindre. Une autre liste, qui s'appelle Changeons d'air, promet une hausse du pouvoir d'achat des familles avec la gratuité du transport urbain et le tarif social de l'eau. Outre le fait que ces sommes sont dérisoires en fait, la promesse d'allocation pour les plus démunis par exemple, qui est déjà chiffré, ne représente que 20 euros par mois et par personne, eh bien le problème vient surtout que ces sommes d'argent proviennent du budget de plus en plus maigre des mairies et qu'elles seront prélevées sur d'autres dépenses utiles pour toute la population, comme l'éclairage urbain, l'entretien des routes ou des bâtiments publics, voire sur le dos du personnel municipal. De telles politiques ne font que nous désarmer, car les moyens matériels et financiers pour résoudre nos problèmes ne sont pas là. Ils sont dans les coffres de Total ou d'Airbus, des chantiers et de ces gros sous-traitants. Et la force qu'il faut mettre en œuvre pour contraindre ces capitalistes, eh bien ce ne sont pas les maires qui l'ont. Cette force, c'est l'ensemble de la classe ouvrière qui l'a quand elle se met en mouvement, quand elle se met en grève et qu'elle s'organise elle-même pour être en situation d'aller jusqu'au maximum de ses possibilités en écartant tous ceux, et ils sont nombreux, qui se présentent pour éteindre la contestation sociale, faire rentrer la classe ouvrière dans le rang pour sauver l'ordre établi, celui de la grande bourgeoisie. Des élus révolutionnaires dans un conseil municipal seraient utiles à leur classe sociale, non pas parce qu'ils seraient de meilleurs gestionnaires des données de la mairie, mais parce qu'ils se rangeraient systématiquement du côté de tous ceux qui se battent contre le patronat, que ce soit pour leur salaire, leurs conditions de travail ou leur emploi. Il sera du côté des travailleurs, des chômeurs, lorsque leurs intérêts seraient opposés à ceux des notables. De tels élus associeraient à leurs décisions les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, avec ou sans papier, les chômeurs, les associations et les syndicats. Car ce qui est aujourd'hui indispensable, c'est que la classe ouvrière retrouve son indépendance politique pour se rassembler derrière des objectifs de lutte communs. C'est la seule manière pour la classe ouvrière de retrouver la force qui est la sienne et qui nous permette de faire reculer enfin le grand capital. Alors oui, dans cette campagne, notre candidature permet aux nôtres d'affirmer que seul le camp des travailleurs peut mettre fin à la dictature du grand capital et de ses mercenaires politiques. Alors pour ces élections municipales, votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière.